c'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et ma vie ne serait jamais plus pareille, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Pensez à qu'est-ce que vous dites là. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? La vérité vous affranchira. Déjà, semaine 3 dans cette série, et comme j'ai expliqué, j'espère que ceux et celles qui n'ont pas assisté pour les deux autres sessions, que vous allez prendre le temps d'aller visiter notre site web www.lavicomblée.com, et là-dessus, vous allez voir plusieurs messages qui sont archivés sur le site, et vous pouvez avoir accès aux autres messages de cette série qu'on a déjà amené les deux semaines précédentes. Et je vous encourage à faire cela, c'est gratuit. Si vous voulez avoir une copie d'une cassette, ça c'est correct aussi, on a les cassettes à vendre, mais c'est sûr que l'Internet c'est gratuit, c'est vraiment pratique aussi. Mais laissez-moi vous dire que j'ai hâte de partager le message ce matin. Je sais que la première semaine, on a parlé un peu la foi, les faits et les fables concernant le code Da Vinci. Et on a parlé de cela parce qu'on sait que le livre de M. Dan Brown, qui est maintenant devenu un film avec Tom Hanks, le livre est un best-seller. Il y a des millions de personnes, même ici au Québec, qui ont lu ce livre. Il y a des choses qui sont propagées dans le livre et dans le film qui sont complètement contraires à qu'est-ce que la Bible nous enseigne et contraires à qu'est-ce que la foi chrétienne présente comme la vérité. Et on a pris une décision que ça serait vraiment un bon temps pour nous en tant qu'Église d'examiner un peu plus de près certaines vérités qui sont destinées à nous équiper à répondre aux questions que peut-être les gens de notre entourage vont nous poser après avoir lu un tel livre, après avoir vu un tel film. Des fois, ils vont commencer à poser des questions parce que vous savez que dans ce film, dans ce livre, il y a des choses vraiment affreuses qui sont dites, comme exemple que le Nouveau Testament, c'est pas vraiment fiable, c'est juste les hommes qui l'ont écrit. Ils vont dire les choses genre que Jésus-Christ n'était pas vraiment le Fils de Dieu, c'était juste un mortel. Les choses comme genre que Jésus était marié avec Marie-Madeleine, ils ont eu un enfant, que ses descendants sont toujours en vie dans le sud de la France. Et on dit, oh, c'est tellement ridicule. Sauf que, qu'est-ce qui est triste, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont tout gobé, on pourrait dire cela. Ils ont avalé ces mensonges et ils y croient. Et même un Canadien sur cinq, dans un certain sondage, ont répondu qu'ils ne croient pas vraiment que Jésus était crucifié. Ils croient que toute la crucifixion même, c'était une farce, c'était quelque chose d'inventé, que Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu, que probablement c'est vrai qu'il s'est marié et qu'il a eu une famille. Un Canadien sur cinq. Donc on voit jusqu'à quel point c'est sérieux de quand même de défendre la vérité, de défendre l'Évangile, parce qu'il y a des personnes qui manquent de l'instruction, qui vont lire un tel livre ou voir un tel film, et ils vont être ébranlés dans leur foi. Mais Jésus a dit quelque chose en Jean chapitre 17, verset 17. Ici, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout le monde dit, la parole de Dieu est la vérité. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va voir les choses concernant la validité et la fiabilité des Écritures, et surtout du Nouveau Testament. Parce que on vient de dire en fait que voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. On dit cela, mais pourquoi est-ce qu'on dit cela? Peut-être on dit cela parce que nos parents nous ont dit que c'est inspiré de Dieu, parce que nous avons toujours entendu cela, ou parce que le pasteur vous a fait répéter cela, je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, j'espère vous donner plusieurs raisons concrètes par lesquelles et pourquoi vous pourrez croire avec assurance que ce livre est vraiment inspiré de Dieu. Amen. Et pour cela, on va commencer en voyant plusieurs choses que M. Dan Brown a dit dans son livre par rapport à la Bible. On va dire qu'est-ce qu'il a dit, on va citer juste quelques phrases, quelques paragraphes de son livre, et puis on va répondre avec les Écritures. Et avec aussi, pas juste les Écritures, on va répondre avec toutes sortes d'éléments et des évidences qui prouvent le contraire. Donc, God Da Vinci dit ceci, que la Bible est un produit de l'homme, et c'est pas de Dieu. Combien de vous avez entendu les choses de même? Juste lever la main. Est-ce qu'il y a des gens ici à Drummondville qui ont déjà dit les choses comme ça? Mais tu sais, la Bible, c'est juste des hommes qui l'ont écrit. C'est pas vraiment de Dieu. Pourquoi est-ce que je devrais écouter la Bible? C'est hors d'âme de toute façon. C'est pas divine. C'est vraiment un livre humain. C'est les hommes qui l'ont écrit. Et qu'est-ce que cela veut dire pour moi ici en 2006? On est dans une autre époque, une autre période. C'est pas vraiment de Dieu. C'est un livre humain. Ça, c'est qu'est-ce que M. Brown a dit dans son livre, qui est quand même fiction, mais le caractère dans son livre a dit cela. Mais tout de suite, je veux juste qu'on lise deux versets de la parole de Dieu, qui vont réfuter cela, bien entendu. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, dit « Toute écriture, et vous pouvez souligner « toute écriture » est inspirée de Dieu. » Vous savez que le mot « inspiré » veut dire littéralement « le souffle de Dieu ». Que Dieu a soufflé sa parole, son cœur, ses pensées, sa volonté, soufflé, et tout en inspirant les auteurs de la Bible, de l'Ancien Testament, ainsi que le Nouveau Testament, et ils ont écrit les choses selon la volonté de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Regarde bien 2 Pierre, chapitre 1, dans vos notes. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Combien de gens, vous avez entendu les gens dire, mais tu sais, ça c'est juste votre interprétation de la Bible. Quand on dit, par exemple, que Jésus est le chemin, Jésus est la vie, Jésus est la vérité, les gens vont dire, mais ça c'est juste votre façon d'interpréter la Bible. Mais ici, c'est clair que il y a aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Pourquoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand on lit les Écritures, et dans les Écritures, c'est un verset, non, c'est Dieu qui est celui qui parle. On sait que Dieu a parlé, il est en train de nous parler à travers les écrivains, et tout ce qui est dit et soufflé de Dieu, c'est vraiment une parole vivante. C'est pas naturel. En fait, la Bible dit que la parole est pour toujours établie dans les cieux. La parole de Dieu est éternelle. Le ciel et la terre vont passer un jour, mais la parole de Dieu va subsister éternellement. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il n'y a rien de plus sûr, de plus solide, de plus concret que la parole inspirée de Dieu, les Écritures. C'est plus sûr que vos circonstances, c'est plus sûr que vos expériences. Il y a beaucoup de gens qui veulent interpréter la Bible dans la lumière de leurs expériences, mais moi je dis toujours qu'il faut interpréter nos expériences dans la lumière de la Bible. Parce que vos expériences ne vont jamais changer la Bible, mais la Bible peut bien changer vos expériences. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia! Donc, on voit que, tout de suite, que quand il dit que la Bible est un produit de l'homme et pas de Dieu, que c'est presque un blasphème, n'est-ce pas? C'est flagrant, c'est dans la face de Dieu, il est en train d'accuser Dieu d'un mensonge, en fait. Mais ici, la deuxième chose, parce que là, vous pouvez dire, si quelqu'un ici est sceptique, vous dites, oui, mais là, tu viens de prouver avec la Bible que la Bible est la parole de Dieu, donc ça ne marche pas, parce que c'est un raisonnement que tu utilises, c'est un cercle infini, là, on ça n'arrête pas. Mais là, laisse-moi vous dire, si ça, c'est votre pensée, relax, on va vous montrer d'autres preuves, d'autres évidences qui ne viennent pas de la Bible, amen. Regardez ici, deuxième chose dans mon note, que le Code Da Vinci dit que le Nouveau Testament est rempli de fausseté et basé sur des fabrications. C'est assez sérieux ce qu'il dit là, hein? Il n'y a presque rien de vrai dans les évangiles que nous utilisons aujourd'hui. Presque tout ce que nos pères nous ont enseigné concernant le Christ est faux. On parle des accusations graves, vous êtes d'accord? Mais comment est-ce que vous allez répondre à quelqu'un qui vous pose cette question? Qu'est-ce que vous allez dire à votre voisin qui vient de lire ce livre et qui dit, mais tu sais quoi? Dans le fond, le Nouveau Testament, c'est juste basé sur les mensonges. On ne peut pas se fier à ça. C'est pas vrai. Il n'y a aucune vérité. Tout ce que l'Église nous a enseigné dans la pensée, c'est des purs mensonges. Il voulait faire cela juste pour nous contrôler. Il voulait mettre les hommes en pouvoir. Et il voulait contrôler nos vies. Et c'est pourquoi ils nous ont dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous allez répondre à ces gens-là? Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous avez une évidence que le Nouveau Testament est digne de confiance, que le Nouveau Testament n'est pas basé sur les fabrications, que le Nouveau Testament est un œuvre et un livre qui est précis et qui est en parallèle et en harmonie avec les faits historiques? Voici qu'est-ce qu'on va dire. L'évidence historique et archéologique, je ne sais pas comment dire cela, mais prouve la fiabilité du Nouveau Testament. Vous savez que on n'a pas besoin juste de regarder les Écritures pour savoir que les Écritures sont inspirées. C'est pas juste en lisant 2 Timothée 3:16 qui dit toute Écriture est inspirée de Dieu, parce que vous savez, pour un sceptique qui croit pas que 2 Timothée 3:16 est inspirée de Dieu, ça donne pas grand-chose de dire mais comment est-ce que tu sais que la Bible est inspirée de Dieu? Parce que la Bible dit qu'elle est inspirée, mais ça marche pas pour le sceptique. On a besoin de défendre notre foi avec d'autres raisonnements, avec d'autres méthodes, n'est-ce pas? Et là, on voit quelque chose d'intéressant. C'est que les œuvres historiques et non-chrétiennes, tu peux souligner dans mon note le mot non-chrétien. Les œuvres historiques et non-chrétiennes de l'époque. On va parler des personnes comme Flavius Joseph. Et lui, c'était un historien, c'était un juif qui était pris en captif. Il était amené en Égypte, il était prisonnier, on pourrait dire même. Après, pas longtemps en fait, après la résurrection de Jésus-Christ, et lui, il a écrit toutes sortes de choses concernant... En fait, c'est lui qui est reconnu comme étant l'historien le plus fiable concernant l'histoire d'Israël et du peuple juif. Et lui, il a écrit un volume qui est très, très, très respecté par les historiens. Mais lui, c'était pas un chrétien. C'est pas quelqu'un qui a confessé Jésus. Mais il a écrit à propos de Jésus. Il y a d'autres personnes. Tacite et le Talmud juif. Et laisse-moi te dire, le Talmud juif, il parlait de toutes sortes de choses contre les chrétiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit dans leurs œuvres? Ont quand même confirmé la validité et la précision historique de tout ce qu'il y a écrit dans le Nouveau Testament. On peut prendre, il y a une dizaine de volumes qu'on peut consulter, des non-chrétiens, des personnes qui n'aimaient pas les chrétiens, des personnes même qui disaient que le christianisme c'est une farce, vous ne croyez pas à la résurrection. Mais quand même, ils ont écrit des choses à propos des chrétiens, à propos de Jésus, qui confirment c'est exactement la même chose qui est écrite dans le Nouveau Testament. Et si on pourrait consulter ces 10 volumes, il y a au moins 10 points importants, 12 points importants qu'on peut découvrir. Et voici les 12 points qu'on trouve dans ces 10 volumes historiques des non-chrétiens. Des personnes qui ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, mais on peut voir qu'ils croyaient impossible de nier que Jésus existait. C'était un personnage de l'histoire, c'est un fait. Et dire que Jésus n'existait pas, c'est comme dire que Stephen Harper n'existe pas aujourd'hui. Jésus a vécu à l'époque de César Tibéris. On voit ça dans les écrits de ses autres non-croyants. Il menait une vie vertueuse, c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont même dit qu'il faisait des prodiges. On parle des non-croyants qui ont quand même avoué. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, par exemple, dans le Talmud? Ils ont dit qu'ils faisaient des prodiges, mais c'était par une force diabolique. Tu comprends? Ils ne pouvaient pas nier le fait que Jésus faisait des prodiges, par exemple. Donc ici, les non-croyants qui ont écrit dans leur livre d'histoire que Jésus faisait des prodiges, mais ce n'était pas vraiment Dieu, c'était le diable. Mais c'est ça qu'on voit même dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Hein, il chasse les démons par le prince des démons. Puis, numéro 4, il avait un frère qui s'appelait Jacques. Et qu'est-ce qui est intéressant? Je trouve ça bien intéressant aussi. Ben, je m'en souviens, il y a quelques années, mon fils est arrivé de l'école, et puis la classe était en train de parler d'une nouvelle découverte archéologique, qu'ils ont découvert le tombe de Jacques, le frère de Jésus. Et puis, ils ont dit, « Hey, mais tu sais, ils ont découvert que Jésus avait un frère. » Mon fils est allé à l'école avec sa Bible, et il a montré ça à son professeur, le passage qui parle de Jacques, le frère de Jésus. Il a dit, « Ah, oui, wow, hey, tu devrais lire ça à toute la classe. » Donc, il a lu ça à toute la classe. Et là, s'ils auraient tout simplement lu la Bible, ils auraient vu et découvert il y a longtemps qu'est-ce que les archéologues viennent de découvrir. Donc, numéro 5, on voit qu'ils se disaient Messie. Donc, les gens, les non-croyants, dans leurs histoires, on dit que cet homme qui s'appelait Jésus de Nazareth, il se disait le Messie. Numéro 6, il fut crucifié sous l'autorité de Ponce Pilate. Il fut crucifié la veille de la Pâque. Il y avait les ténèbres et un tremblement de terre lors de sa crucifixion. Ça, c'est des non-croyants qui écrivent cela. Donc, dire que le Nouveau Testament est basé sur les fabrications, les mensonges, c'est ridicule. Ils ont juste à lire les autres œuvres d'histoire pour voir que c'est vrai. Numéro 9, ses disciples croyaient qu'il fut ressuscité des morts. C'est ça que les non-croyants disent. Ses disciples croyaient qui fut ressuscité des morts. Et ses disciples étaient prêts à mourir pour leur croyance. Le christianisme fut répandu jusqu'à Rome, comme la Bible dit, et ses disciples ont nié les dieux romains et ont adoré Jésus comme Dieu. Donc ça, c'est 12 faits qu'on ne trouve pas dans la Bible. On ne trouve pas ces faits. On les trouve dans la Bible, mais ce n'est pas juste dans la Bible. On les trouve aussi dans ces 10 autres œuvres d'histoire qui sont reconnues et respectées par les historiens. Je trouve ça bien intéressant. Je ne sais pas pour vous, hein? Donc, ça serait peut-être un bon outil pour vous, hein? La prochaine fois que quelqu'un dit, « Mais tu sais, les histoires du Nouveau Testament, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ça? » Oui, on peut. On serait ridicule de ne pas croire cela. Puis, juste une chose, j'ai traduit cela, donc la traduction n'est peut-être pas le meilleur. Je l'ai traduit d'anglais. Quelque chose que Flavius Joseph, encore l'historien juif, qui est peut-être le plus respecté de cette époque, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit quelque chose dans son livre en 93, l'année 93. OK? Donc, on parle au début de la vie de l'Église, on pourrait dire. Et il a dit ceci, à cette époque, le temps de Pilate, il y avait un homme sage qui s'appelait Jésus. Sa conduite était bonne et il fut reconnu comme un homme pieux. Beaucoup de gens de parmi les Juifs ainsi que les autres nations sont devenus ses disciples. Pilate l'a condamné à la mort par crucifixion. Mais ceux qui sont devenus ses disciples n'ont pas arrêté d'être ses disciples. Ils ont donné le rapport qui s'est présenté devant eux 3 jours après la crucifixion, qu'il était vivant et qu'il était donc le Messie dont les prophètes ont écrit les merveilles. Non, ça, c'est un homme qui ne croit pas forcément que Jésus est le Fils de Dieu, mais qui écrit pas mal une bonne résumé de l'Évangile, n'est-ce pas? Et ça, c'est dans un livre historique écrit par un juif non-croyant, on pourrait dire, non-chrétien. Laissez-moi vous dire, l'évidence pour la précision et la validité du Nouveau Testament et de toute la Bible, en fait, c'est incroyable. Puis, il y a une autre chose dans vos notes, ici, le Code da Vinci dit ceci. La Bible a évolué à travers des centaines de traductions, d'additions et de révisions. Et puis, il a dit ailleurs qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire une version définitive du livre. Mais il faut qu'on comprenne une chose. Quand on parle du Bible, on ne parle pas vraiment d'un livre. Il y a 66 livres là-dedans. On va parler de ça tantôt. Il y a 27 livres du Nouveau Testament. La balance se trouve dans l'Ancien Testament. Il y a 66 livres. Et on va parler de cela, comment ils ont déterminé quels livres ont été placés dans notre Bible. Mais on voit que le fait qu'il dit que la Bible a évolué, combien de vous avez entendu cela? Ah, vous savez, la Bible a été traduite tellement des fois que qui sait? C'est comme le jeu de téléphone. Est-ce que vous avez déjà jouer le jeu de téléphone, on dit, on va chuchoter dans l'oreille d'une personne quelque chose, exemple, j'aime manger la poutine. On va le dire ici, j'aime manger la poutine, et il va chuchoter dans l'oreille de Emilien, et on va faire le tour jusqu'à arriver encore à Claude, et Claude va dire, c'était un bon match de hockey hier soir, n'est-ce pas? Donc, ça commence avec j'aime la poutine, et ça finit avec un bon match de hockey. Donc, on a tous eu cette expérience, et ça, c'est l'argument des gens qui disent, comment est-ce qu'on sait vraiment que la Bible est fiable? Parce que il a été traduit tellement des fois, tellement de versions, de traductions différentes, etc., etc. Puis, il y a plusieurs pensées que je veux partager avec vous. Premièrement, les parchemins de la mer morte témoignent de la précision de l'Ancien Testament. Parce que là, ils ont découvert une copie de Ésaïe qui datait 1000 ans. C'était 1000 ans plus vieux que l'autre version qu'ils avaient le plus récent. Et quand ils ont fait la comparaison, c'était identique. C'est quelque chose, n'est-ce pas? On est allé à Montréal il n'y a pas longtemps, il y avait au musée de... Et on a vu une portion de cela. Et même la personne qui guidait le tour, on sait que ce n'était pas une croyante, elle disait toutes sortes de choses qui n'avaient pas de bon sens pour essayer de dire que Dieu n'existait pas, mais quand même, elle a dû avouer que... Parce qu'on l'a vu avec nos yeux, une portion de ces parchemins, et que c'était identique aux autres copies d'Ésaïe qu'ils avaient. Donc, ils ont dit, bon, là, ils ont vu qu'elle a avoué qu'ils avaient une façon de transcrire et de faire des copies qui étaient vraiment précises. Et c'est vrai, moi, j'ai pas le temps de parler de ça, je suis pas un expert là-dessus non plus, mais je sais que quand les gens faisaient les copies, souvent, les Juifs, c'était tellement sacré pour eux qu'après avoir écrit juste une lettre, ils allaient se laver les mains, être sûr et certain que chaque lettre est inscrite parfaitement. Et puis, chaque lettre dans l'hébreu aussi a une valeur numérique aussi. Donc, ils essayaient toujours, ils comptaient la valeur numérique de chaque mot pour être sûr. Donc, ils ont checké, ils ont vérifié. Laisse-moi vous dire, c'est pas comme un jeu de téléphone. On va chuchoter dans l'oreille de quelqu'un. C'était une science de précision de faire les copies de la parole de Dieu. Amen. Et puis, numéro deux, une autre chose qu'on voit, parce que les gens vont dire, mais tu sais, comment est-ce qu'on sait? La Bible a évolué, le Nouveau Testament a évolué, il y a tellement de traductions, etc., etc. Mais regardons ceci. Numéro deux, nous avons beaucoup plus de copies du Nouveau Testament que tous les autres livres classiques de l'Antiquité, tous ensemble. On peut prendre toutes les copies qui existent, tous les autres livres qui sont reconnus par les érudits comme étant fiables, et on va donner une liste de cela dans une minute, et on met toutes les copies qui existent ensemble, et c'est rien comparé à ce que nous avons concernant le Nouveau Testament. Numéro 3, aussi, il y a beaucoup moins de temps entre l'original et les premières copies. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que il y avait les Écritures qui ont été écrites par les hommes, poussées par l'Esprit de Dieu, et puis, on n'a plus ces originales. Mais qu'est-ce qu'on a? On a les premières copies qui ont été faites. Et il y a un espace de temps entre le temps que le livre original a été écrit et la copie le plus vieux que nous avons, on peut dire. Et l'espace de temps entre l'original du Nouveau Testament et la première copie, c'est très, très minime comparé à l'espace de temps pour toutes ces autres œuvres d'histoire, qui sont reconnues par les hommes aujourd'hui comme étant fiables, les œuvres d'histoire qui sont très fiables et dignes de confiance. Personne ne met en question ces œuvres classiques, parce qu'on sait, ce qui l'a écrit, et c'est digne de confiance. Pourtant, regardons ceci, voici la preuve. J'ai donné une petite charte dans vos notes ici. Si on regarde le livre classique de Homère, ils ont actuellement 643 copies. Ça, c'est quand même bien. Il y a plus de copies de son œuvre que tous les autres que je vais mentionner. Mais quand même, le temps entre l'original qu'il a écrit et la première copie que nous possédons, c'est 501. Et ça, c'est le plus fiable, on pourrait dire. Ça, c'est vraiment quelque chose, Homère. Mais il y a un autre écrivain, Démosthène, j'ai de la misère à prononcer ces choses en français des fois, mais lui, on a actuellement 200 manuscrits qui existent, mais il y a 1401 entre l'original et la première copie que nous avons. Pourtant, les gens ne mettent pas ça en question. Ils sont convaincus que c'est fiable, que c'est une bonne copie et l'information là-dedans est digne de confiance. Puis, il y a aussi Hérodote, encore 8 manuscrits seulement et encore 1401. Platon, il n'y en a que 7 manuscrits et 1201. Tacite, c'est 20 copies et 1000 ans. César, 10 copies et 1000 ans encore. Et puis Pline, je ne sais pas comment prononcer ça en français, mais 7 copies et puis 750 ans entre l'original et la première copie. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez savoir combien de copies du Nouveau Testament nous avons dans la langue grecque? On a plus de 5600 copies grecques. 5600. Comparé au le meilleur qu'ils peuvent faire pour les œuvres d'histoire, c'est 643 avec Homère. 643 comparé à 5600 et plus. Laisse-moi vous dire, l'évidence pour le Nouveau Testament est quelque chose. Et là, on parle des copies dans la langue grecque. Il y a aussi des copies dans d'autres langues, coptes et etc. Et il y a 9000. En fait, si, ça dépend de comment on fait les calculs, parce qu'il y a aussi des portions. Il y a des copies complètes, il y a des autres choses, c'est juste des portions des Écritures. Mais si on comprend tout, on a plus de 24 900 copies. 24 900 copies que nous avons des portions ou du Nouveau Testament dans son intégralité, comparé à 643. L'évidence pour la validité des Écritures, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Et puis, vous voulez savoir le temps, le nombre d'années entre l'original et les copies? Est-ce que vous pouvez deviner? 50. Absolument. 50 ans seulement. 50 ans. Il y a même quelques personnes qui croient qu'il y a des portions d'écriture qui ont été trouvées qu'ils croient que c'est juste 25 ans. Donc, on peut dire entre 25 et 50 ans, parce qu'il y a un évangile de Jean qui ils savent que c'est daté c'est à peu près 50 ans après que c'était écrit. Et c'est quelque chose parce que tout le Nouveau Testament a été écrit avant l'année 100. C'est-à-dire que c'était écrit entre 30 ans la plupart, c'est ça. C'est-à-dire que quand ils ont écrit le Nouveau Testament, les témoins oculaires étaient toujours en vie. Et ils étaient capables de vérifier les faits, voir que non, je m'excuse, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, ils ont vu, il y avait l'occasion de critiquer, on pourrait dire, parce que les témoins oculaires étaient toujours en vie. Comparé aux évangiles gnostiques et les autres choses de l'Apocrypha qui ont été écrits 200 ou 300 ans après le fait. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Je veux que vous sachiez que nous avons beaucoup d'évidence qui nous dit que le Nouveau Testament est digne de confiance. Plus de 5600 copies grecques et seulement 50 ans entre l'original et les premières copies. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve ça cool, c'est encourageant. Et vous? Je sais pas, mais pensez à ça comme faux. Une autre chose que le Code Da Vinci dit, il dit que plus de 80 évangiles ont été considérés pour le Nouveau Testament, mais seulement 4 ont été choisis. Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre? C'est que Constantin a pris une décision de, en fait, faire une collation de la Bible, que lui, il a décidé quel livre de la Bible sont vraiment de Dieu et quels livres ne sont pas de Dieu. Et lui, il dit qu'il y avait 80 évangiles qui ont été présentés pour évaluation. Ils ont choisi juste 4 et ils ont rejeté tous les livres qui pourraient révéler la vérité que Jésus voulait, en fait, donner l'Église, l'autorité de l'Église à Marie de Madeleine et que Pierre a été jaloux, etc. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose pour se protéger. Mais ça, c'est ridicule. Parce que, en fait, Constantin n'a pas fait une collation de la Bible. Qu'est-ce qu'on voit? On n'a pas le temps d'aller en détail, mais les livres du Nouveau Testament ont déjà été considérés comme étant de Dieu et inspirés longtemps avant le conseil de Nicée que Constantin a convoqué. Je pense que c'était en 325, l'année 325. Les chrétiens déjà croyaient à ces évangiles, ils croyaient à ces livres, ces 27 livres d'amis des apôtres. Ils croyaient déjà. Mais Constantin, c'est sûr qu'il avait une convocation, mais on n'a pas le temps d'aller en détail, mais la convocation, c'était pour développer une meilleure unité entre les chrétiens. Ils avaient besoin de décider certaines choses, mais M. Brown est complètement dans le champ quand il dit que c'est Constantin qui a décidé le contenu de la Bible. C'est juste pas vrai. Il y avait un processus, qu'est-ce qu'on appelle la canonisation de la parole de Dieu. Les gens utilisaient le canon, c'était pas une arme, mais c'était... Le mot « canon » veut dire tout simplement « en règle ». Et on va prendre le règle et on met ça à côté de quelque chose et on est capable de vérifier est-ce que la chose est en règle. Et puis, qu'est-ce que les hommes ont fait? C'est vrai que les hommes, en fait, c'était un peu plus tard que 325. Ils ont, eux, un moment où ils ont pris une décision et ils ont mis la marque de leur approbation sur certains livres. Regardez, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait, c'est vrai, plusieurs œuvres qui étaient en circulation, qui disaient toutes sortes de choses bizarres, comme j'ai parlé de l'évangile de Thomas et j'ai parlé de plusieurs choses où c'est fou, 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 qu'est-ce qui est marqué là-dedans. Et c'est vrai qu'aussi, il y avait une persécution et les gens étaient en train de détruire les Bibles. Et ils avaient besoin de décider quelle Bible, c'est quelle œuvre, quel livre est-ce qu'il faut vraiment, vraiment protéger. Est-ce qu'il y a des livres pour lesquels ça vaut la peine de mourir pour les protéger même? Est-ce que c'est sûr? Ils n'étaient pas prêts à mourir pour le livre ou l'évangile de Thomas. Mais il y a des gens qui étaient prêts à mourir pour l'évangile de Luc, l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu et Jean. Les gens étaient prêts à mourir pour cela. Mais regarde bien. Et quand ils ont fait le canon ou le règle qu'ils ont utilisé pour déterminer la validité des livres du Nouveau Testament, c'est le suivant. 5 éléments. Et je veux vous donner ça. C'est la première fois que je pense qu'un dimanche matin, j'explique ces choses, mais je crois que ça fait du bien des fois pour nous en tant que croyants de savoir pourquoi nous avons la Bible que nous avons, pourquoi est-ce que nous croyons que c'est inspiré de Dieu et qu'elle est digne de confiance. Premièrement, le premier critère, c'était son origine apostolique. Quand il considérait les livres pour le Nouveau Testament, il posait la question, est-ce que le livre était écrit par un apôtre ou par quelqu'un qui connaissait personnellement un apôtre, un témoin oculaire? Vous comprenez? Donc, tout de suite, on peut voir que Matthieu, ça fit la critère parce que Matthieu, il était un apôtre, n'est-ce pas? Luc n'était pas un apôtre, mais il était proche avec les apôtres, n'est-ce pas? Donc, on voit la même chose avec Marc. Et par rapport au canon, ils ont dit oui, ça fait. Tandis que l'évangile de Thomas ou l'évangile de Judas, écrit par des personnes 300 quelques années après le fait ou 200 quelques années après le fait, impossible. Ce n'était pas un apôtre et ça ne se peut pas que vous connaissiez l'apôtre non plus. Donc ça, on dit tout de suite, ça marche pas, c'est pas dans le canon. Puis, deuxième élément, c'était la conformité à l'ensemble des écrits reconnus. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le Nouveau Testament, il fallait que ça soit conforme à l'ensemble du Nouveau Testament. Quelque chose qui va introduire une doctrine bizarre, qui va contredire toutes les autres doctrines du Nouveau Testament, ça se peut pas que ça vienne de Dieu parce que Dieu ne va pas se contredire, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, ils ont dit. Deuxième critère. Troisième critère, c'était la confirmation et acceptation universelle. Acceptation universelle. Est-ce que les livres ont été acceptés et confirmés par les leaders spirituels du premier Église, du premier siècle? Est-ce que les leaders spirituels ont reconnu et accepté que ces livres-là sont vraiment de Dieu? Et puis, Quatrième chose, c'est une utilisation liturgique, on pourrait dire. Tout simplement, liturgique, c'est-à-dire utilisé régulièrement lors des cultes chrétiens. Est-ce que ces livres ont été utilisés dans l'Église primitive sur une base régulière? Est-ce que les anciens des Églises citaient de ces livres? Est-ce qu'ils enseignaient de ces livres? Est-ce que ces livres étaient utilisés couramment dans les Églises? Ça, c'est notre critère. C'est sûr que les évangiles gnostiques ne c'était pas la règle. Amen. Puis, finalement, numéro 5, une évidence d'une inspiration divine. Évidence d'une inspiration divine. Est-ce qu'il y a une évidence que ce livre est inspiré de Dieu? Ou est-ce que c'est juste humain? Est-ce que c'est juste naturel? Vous savez qu'il y a des éléments, on peut voir. C'est facile à voir quand quelque chose est inspiré de Dieu. Il y a une touche différente. Il y a un élément différent qu'on trouve dans les Écritures inspirées, qu'on ne trouve pas dans les œuvres humaines. C'est pourquoi même si l'apôtre Paul, exemple, il a écrit 4 lettres aux Corinthiens, dans le fond, il y a juste 2 de ces lettres qui sont incluses dans le canon, parce que les autres, vous savez, vous et moi je peux, en tant que pasteur, je peux vous parler de même, avoir une bonne conversation, mais aussi en tant que pasteur, je peux vous prophétiser aussi. Quand l'Esprit Saint est sur moi. Paul, il peut écrire juste, c'est Paul qui écrit, il peut aussi écrire quand il est sous l'inspiration de l'Esprit et poussé par l'Esprit d'écrire les choses de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas juste parce que c'est Paul dire que, tout ce que Paul a dit, c'est inspiré, c'est l'Écriture. Donc, ça, c'est le canon du Nouveau Testament, les éléments importants. Mais là, on va finir aujourd'hui avec 10 raisons pour croire à la Bible. Est-ce que ça vous intéresse? 10 raisons pourquoi je crois que la Bible est vraie et vous devrez croire que la Bible est vraie aussi. Premièrement, numéro 1, c'est son honnêteté. Vous savez que si quelqu'un voulait juste duper le monde, est-ce qu'on peut dire duper? Si quelqu'un voulait juste séduire et tromper le monde, je ne pense pas qu'il écrirait les choses qui sont écrites dans ce livre. Parce que dans ce livre, on voit tout. On voit des forces et des faiblesses des hommes. Par rapport à Israël, j'ai mis une référence là-dedans, Ézéchiel 16. Il y a toutes sortes de choses qui sont dites à propos des Israélites. C'est pas tellement agréable. C'est pas tellement positif, OK? Mais c'est honnête. Même chose, quand on regarde le Nouveau Testament, on voit que c'est inclus quand l'apôtre Paul avait besoin de reprendre Pierre à sa face, n'est-ce pas? On voit ses faiblesses. On voit qu'il a des pieds d'argile. On voit que c'est pas juste des dieux sur deux pieds, mais c'est les hommes de Dieu sur deux pieds. Amen. Donc, on voit l'honnêteté de la Bible. Numéro 2, sa préservation et capacité de survivre. Sa préservation. J'ai déjà parlé de ça. On a combien de copies de ce livre comparées aux autres livres d'histoire? Sa préservation et, comme je dis dans les notes ici, deuxième chose, la capacité de survivre. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez combien de fois les hommes de pouvoir ont essayé avec toute leur force, avec toute leur énergie, de détruire la Bible et de anéantir chaque copie qui existe sur la planète. Ils ont essayé avec tout leur cœur, toute leur force, toute leur énergie. Mais au lieu d'avoir cela, on a le contraire. Amen. Numéro 3. Ses propres déclarations, comme 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu. On a plein de versets dans la Bible où la Bible va dire lui-même que c'est inspiré de Dieu. Donc, c'est une autre raison pour laquelle je crois. Numéro 4, les miracles. Savez-vous que, surtout dans le Nouveau Testament, ça parle de la résurrection de Jésus. En 1 Corinthiens chapitre 15, il y a une mention de plusieurs personnes par nom qui ont vu le Seigneur Jésus ressuscité. Et puis, c'est marqué qu'il y a 500 d'autres témoins qui l'ont vu ressuscité et la plupart d'eux sont encore en vie aujourd'hui. Quelqu'un qui va fabriquer un mensonge, c'est pas vraiment un miracle. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais tu sais, j'étais tout seul une journée et puis j'ai vu Jésus. Ah oui, est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu? Non, il n'y a personne d'autre qui l'a vu, c'est juste moi. Mais lui, il ose dire le nom de plusieurs personnes qui l'ont vu. Comme ça, vous pouvez aller parler avec la personne vous-même. Demande-lui, il a vu. Et il y a 500 personnes qui l'ont vu. La plupart sont encore en vie aujourd'hui. Allez voir vous-même. Donc, les miracles qui sont mentionnés, comme je dis, ces choses ont été écrites peu, pas longtemps après la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus, donc il y avait des témoins oculaires toujours en vie pour valider ces miracles. Numéro 5, son unité me fait croire aussi à la Bible. Son unité. Regarde ici, il y a 66 livres dans la Bible, il y a 40 auteurs et qui viennent de toutes sortes d'arrière-plan. On a toutes des personnes, des pêcheurs professionnels, on a des personnes qui travaillaient pour Revenu Canada, c'est pas Revenu Canada à l'époque, mais qui ont perçu les taxes, on a des fermiers, on a des prophètes, on a des rois, toutes sortes de personnes de toutes sortes d'arrière-plan, 40 auteurs qui ont écrit à travers une période de 1600 ans, et même après l'Ancien Testament, il y avait 400 ans de silence avant que le Nouveau Testament ait commencé. Mais pourtant, 66 livres, 40 auteurs, 1600 ans, 400 ans de silence, et il n'y a rien qui se contredit. Laisse-moi vous dire, ça c'est pas normal, ça c'est surnaturel. Amen. Ça va tout de pair, tout ensemble. Puis, on est là, numéro 6, une autre raison pour laquelle on croit à la Bible, sa précision historique et archéologique. Sa précision, j'ai déjà mentionné plusieurs choses à propos de l'histoire, on peut confirmer cela avec les autres œuvres des non-croyants. Mais même dans l'Ancien Testament, à toutes les années, ils vont découvrir les choses. Les archéologues vont découvrir les choses. Pendant longtemps, il y avait des personnes qui disaient que la Bible n'est pas vraie parce que la Bible parle d'un peuple qui s'appelle les Hittites, les Hittites. Je ne sais pas comment dire ça en français. Les Hittites, c'est ça. Mais vois-tu, ça prouve que la Bible n'est pas vraie. Mais savez-vous quoi? Les archéologues ont trouvé des villes entières des Hittites aujourd'hui. Et donc, ils disent, wow, c'est vrai. Donc, des choses qu'on ne savait pas il y a quelques décennaires. Maintenant, on sait. On a une preuve et une évidence archéologique aussi. Et il y en a tellement. Il y a des livres complets qui sont écrits juste sur les preuves et les évidences archéologiques. Vous devrez vous procurer ces genres de livres et ça va vous aider. Numéro 7. Je crois à la Bible à cause de son approbation par Jésus et les apôtres aussi. Regarde qu'est-ce que Jésus a dit. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La loi, les prophètes et les psaumes, les trois parties de l'Ancien Testament. Jésus a dit, la loi parle de moi, les psaumes parlent de moi, les prophètes parlent de moi. C'est digne de confiance. Et on sait que Jésus, c'est pas juste un personnage fictif, c'est une vraie personne, n'est-ce pas? On l'a vu. Même Joseph nous l'a dit. Merci Flavius. Puis, il y a une autre chose, numéro 8. Je crois à la Bible à cause de sa précision prophétique. Pour moi, personnellement, c'est peut-être la chose le plus flagrant comme évidence. La précision prophétique, juste un exemple ici. Des centaines d'années en avance, le prophète Michée a dit en chapitre 5, verset 2, « Et toi, Bethléem, est-ce que vous avez entendu parler de Bethléem? C'est la ville où Jésus fut né, n'est-ce pas? Et toi, Bethléem, Éphrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Ouh! Des centaines d'années avant, il mentionne par nom le nom de la ville où Jésus va naître. Il y a tellement d'exemples comme ça. Il y a d'autres personnes. Cyrus, qui est mentionné par nom des centaines d'années avant que le peuple... 305? Merci Donald. Donald connaît bien ces choses. 300 ans avant... Cyrus est mentionné par nom. Le gars n'est même pas conçu, venu au monde. 300 ans avant, son nom est mentionné dans la Bible. Vous savez, pour vous, pour moi, la plus grande preuve prophétique, c'est la nation d'Israël. Tout l'Ancien Testament parle d'Israël, qu'il y a des prophéties qui disaient clairement qu'est-ce qui allait se passer à Israël si ils se détourneraient de Dieu. Qu'ils seraient amenés en captivité, que la nation serait détruite, et que tout le monde serait dispersé partout dans le monde, mais que, après bien des années, que tout le monde serait ramené de nouveau dans la terre promise. Il n'y a pas une autre nation sur la planète Terre qui a vécu cela. Il y a bien des nations qui ont été dispersées, mais jamais, jamais, jamais une nation est revenue à ses racines comme la nation d'Israël. Tu as juste à voir cet incroyable nombre de prophéties qui ont été précisément accomplies et réalisées. Quelqu'un qui dit la Bible n'est pas inspirée de Dieu est aveuglé. Alors, je dis ça avec tout respect, douceur et amour. Amen. Puis, numéro 9. Il y a aussi une autre raison pour laquelle on croit que la Bible est de Dieu, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Il y a juste quelque chose dans notre cœur qui nous dit que c'est vrai, n'est-ce pas? C'est pas juste quelque chose, c'est quelqu'un. Regarde ceci. Jean chapitre 7, 16 dit, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut, tout le monde dit, si quelqu'un veut. C'est-à-dire, il y a bien des gens qui ne veulent pas. Mais si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. N'est-ce pas intéressant que Jésus est en train de dire qu'une personne avec un cœur bien disposé, quelqu'un qui est honnête avec lui-même, quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu. Comme on a dit la semaine passée, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, pas parce que l'évidence n'est pas là, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas croire en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la Bible non plus. Pourquoi? Pas parce que l'évidence n'est pas là, parce qu'ils ne veulent pas croire à la Bible. Parce que dès qu'ils croient à la Bible et dès qu'ils avouent que la Bible est vraie, ils sont responsables de vivre dans la lumière de la Bible, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un veut faire sa volonté, Jésus l'a dit, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, le témoignage de l'Esprit Saint va dire oui, c'est vrai. Amen. Et numéro 10, une autre raison pour laquelle je crois à la Bible, c'est sa puissance pour changer les vies. Vous savez que toute Écriture est inspirée de Dieu, mais comme Hébreux 4, 12 dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, active, comme une épée à deux tranchants, n'est-ce pas? La parole de Dieu a le pouvoir, la capacité de changer nos vies. En Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, on va finir avec ce verset. Je veux vraiment qu'on lise ce verset avec un cœur. Je vous ai donné beaucoup de choses pour votre tête aujourd'hui. Et c'est bon, hein? Parce que des fois, on croit, moi, je mets beaucoup l'accent sur l'importance d'avoir une connaissance spirituelle de Dieu. Mais savez-vous quoi? Il faut aussi renouveler notre intelligence. Et il faut être intelligent. Comme les gens disent, nous sommes des chrétiens, mais on n'est pas des crétins, comme on dit. On est capable, Dieu nous a donné un cerveau, il faut s'en servir aussi, n'est-ce pas? Et quand les gens commencent à te poser des questions, quand ils vont dire les choses comme Dan Brown a dit dans son livre, il va falloir que vous soyez capable de répondre. Pourquoi est-ce que vous croyez à la Bible? Comment ça? Les gens, quand on dit qu'on croit à la Bible, ils nous regardent comme ça. Le gars, il est vraiment stupide, hein? Mais le contraire est vrai. Quelqu'un qui ne croit pas à la Bible, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son raisonnement. Il n'est pas en train de raisonner, il n'est pas raisonnable. Oui, mais ça a changé tellement des fois. Est-ce qu'on n'a même pas des bons copies? Oui, on a plus de 24 000 copies du Nouveau Testament. En Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous en avons fait entendre, que vous l'avez reçue. Soulignez cette phrase, vous l'avez reçue. La parole de Dieu doit être respectée, reçue et obéie, n'est-ce pas? Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement. Qu'est-ce qu'elle est véritablement? Comme la parole de Dieu. La parole de Dieu qui fait quoi? Qui agit. La parole de Dieu qui agit. La parole de Dieu qui agit en qui? Pas en tout le monde. En vous qui croyez. C'est pourquoi la parole de Dieu est puissante, mais seulement pour ceux qui croient à la parole de Dieu. Si vous dites, mais la parole de Dieu, c'est pas vrai, c'est pas bon, c'est juste basé sur les fabrications, laissez-moi vous dire, ça va rien changer dans votre vie. Mais si vous approchez de la parole de Dieu avec un cœur humble, vous recevez avec douceur la parole plantée dans votre cœur, qui est capable de sauver vos âmes, ça va vous transformer de A à Z. Ça va donner une nouvelle orientation dans vos pensées. Ça va donner ouverture à toutes les bénédictions de Dieu dans votre vie. La parole de Dieu, Dieu a envoyé sa parole, il les a guéris. Ça va amener la guérison pour votre corps physique. Ça va amener la prospérité. Ça va amener le bonheur et la joie dont vous avez besoin. La parole de Dieu a le pouvoir de changer, de transformer votre vie. Donc c'est comme ça. Quand on dit la prochaine fois, voici ma Bible. Waouh, j'ai une Bible. Dieu m'aime tellement qu'il m'a confié une Bible, sa parole, vivante, efficace, capable de changer ma vie. Alléluia. Je pense qu'on a besoin de respecter, recevoir et obéir cette parole comme jamais auparavant. C'est elle qui va changer votre vie. C'est elle qui va changer votre destinée. C'est elle qui va vous donner les choses dont vous avez besoin et que vous voulez dans votre vie. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Alléluia. La semaine prochaine, on va voir encore plus des choses merveilleuses concernant Jésus-Christ. Cet homme qui a vécu, qui était considéré un homme vertueux, qui a fait des prodiges, qui avait un frère qui s'appelait Jacques, qui a été crucifié sous Ponce Pilate. On va voir c'est qui vraiment c'est Jésus et qu'est-ce qu'il peut faire pour votre vie aujourd'hui. Alléluia. Donc si on peut avoir quelqu'un au piano, je pense que c'est Jean-Charles aujourd'hui, on va prier pour terminer aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi je suis plus heureux à la fin de la réunion qu'au début, et j'étais heureux au début. Alléluia. Alléluia. Merci, Père Céleste. On va prier ensemble. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux et commencer à réfléchir. Alléluia. On a raison de croire que la Bible est vraie, qu'elle est digne de confiance. L'évidence est là. Vous savez que dans ces Écritures, nous voyons plein de choses sur Jésus, sur le salut. Si je prendrais juste 4 versets, par exemple, de Romains, Romains 3, 23, qui dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous parle, qui parle à l'humanité en disant qu'on a tous besoin d'un sauveur. On est tous séparés d'avec lui avant de connaître Jésus. Si on irait à chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est une vérité, Jésus-Christ est mort pour nous, même pendant nos péchés. Si on prendrait chapitre 6 et verset 23, la parole de Dieu dit ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » N'est-ce pas bon d'avoir ces versets? Le souffle de Dieu, la parole de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quatrième verset qu'on peut lire, c'est Romains 19 qui dit, « Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est une parole autoritaire, digne de confiance, digne d'être acceptée. Que si nous confessons avec notre bouche le Seigneur Jésus, un Seigneur c'est un maître, c'est quelqu'un qu'on va suivre, on lui cède notre volonté, on lui donne la permission de faire son œuvre et accomplir sa volonté dans nos vies. Mais si vous êtes ici ce matin, avec tous les yeux fermés, Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que vous êtes encore dans vos péchés, vous êtes séparés d'avec Dieu, vous n'avez pas encore confessé Jésus avec votre bouche et cru dans votre cœur. Sachez, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est un cadeau que le Seigneur vous offre. C'est la vie éternelle. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez donner votre vie à Jésus. Donc, je vais donner 3 invitations ce matin. Écoutez bien. Si vous êtes ici, vous n'avez jamais confessé avec votre bouche le Seigneur Jésus, mais vous voulez donner votre vie à lui aujourd'hui, je veux que vous levez la main. Si vous êtes là et vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais vous vous êtes éloigné de lui et vous avez besoin de reconsacrer votre vie à Jésus, vous pouvez lever votre main. Et si vous êtes là et vous avez besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence initiale de parler en langue, comme Actes 2, 4 dit, veux-tu se remplir du Saint-Esprit et se mettre à parler en d'autres langues comme l'Esprit le donnait de s'exprimer. Sur une de ces 3 invitations, si vous êtes ici, vous avez besoin de recevoir. Juste levez la main. C'est quelqu'un? Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Je ne connais pas chaque personne ici. Ça se peut que la plupart de vous, vous êtes déjà sauvés, consacrés au Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Mais sinon, n'hésitez pas. Le Seigneur est là. Alléluia. Il y a quelqu'un? Non? On va prier pour l'Église. Peut-être, comme je dis, c'est vous, c'est entre vous et le Seigneur. Vous connaissez votre état spirituel. La semaine prochaine, je veux nous encourager à venir, mais d'amener des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, parce qu'ils vont voir. Ça va être un message clair, net, précis sur la divinité de Jésus-Christ, qu'il est Dieu, qu'il est le sauveur du monde, l'évidence qu'il est Seigneur des Seigneurs, il est Roi des Rois. Donc venons avec des gens, on va donner une invitation, on va voir des âmes sauvées la semaine prochaine. Mettez-vous en accord avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour cela maintenant? Père Céleste, au nom de Jésus, donne-nous une occasion favorable, une porte ouverte, pour amener quelqu'un avec nous la semaine prochaine, pour entendre la bonne nouvelle et pour recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, merci. Priez ceci. Merci Seigneur pour ta parole qui est inspirée de toi. Nous sommes reconnaissants d'avoir la parole de vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. N'oubliez pas, on a les groupes d'impact ce soir et des autres journées de la semaine aussi. Claude a la liste de tous les groupes et on va avoir un bon temps. Donc, venez nombreux la semaine prochaine, venez au groupe d'impact, continuez à méditer ces choses et on va aller de l'avant au nom de Jésus. Je vous aime, je vais aller à la porte vous donner la main et que le Seigneur vous bénisse. On va chanter un dernier chant ensemble.